Au 01 45 24 7000, j'accueille d'abord Romain Slitine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, économiste, expert associé à l'ESSEC, maître de conférences à Sciences Po Paris et Lille. Vous avez créé Odyssem, un collectif d'entrepreneurs qui agit pour développer des projets innovants de relocalisation d'emplois et d'activités sur les territoires. Vous avez coécrit avec Elisa Lewis le coup d'état citoyen qui est paru aux éditions La Découverte, où vous recensez des exemples concrets de démocratie participative, mais pas seulement en France. Hein. Vous avez sillonné le monde pour donner des exemples de participation citoyenne, c'est cela ?
Oui, tout à fait. On a souhaité évidemment aller dans les pays qui bougent le plus sur ces sujets. On est allé en Espagne, bien évidemment, en Italie, au Brésil, et dans différents endroits en France également, bien évidemment.
Avec des choses qui vous ont surprise parfois, des exemples, des initiatives surprenantes.
Alors oui, en fait, on est parti du constat que faisait à l'instant Jean Finkelstein sur la crise de notre démocratie, et on s'est dit on peut pas rester sur cette idée de crise démocratique. Il faut qu'on trouve des solutions. Donc effectivement, on a voulu aller partout dans le monde pour trouver ces solutions, et il y en a énormément. On va en donner un certain nombre d'exemples. Quand on pense par exemple à l'Islande, qui il y a quelques années a réussi à confier à des citoyens ordinaires, en dehors de toute parti politique, la révision de la constitution de A à Z, avec une constitution qui a été approuvée par référendum à plus de 60% par la population. On voit que une situation qui était bloquée après la crise de 1998, bloquée par la classe politique, a pu être débloquée par des initiatives citoyennes, ce qui montre qu'on peut véritablement faire confiance aux citoyens au-delà du vote, parce que peut-être une des analyses que l'on peut faire sur cette crise de la démocratie, c'est qu'on réduit trop souvent le citoyen à un électeur. Et en fait, du coup, l'électeur vote tous les 5 ans, 6 ans, mais entre-temps, il n'a pas tellement voix au chapitre. Et c'est, de notre point de vue, avec Elisa Lewis et tout le collectif de Démocratie Ouverte, une des raisons de cette crise démocratique.
Alors, on va prendre des exemples avec les auditeurs de France Inter qui ont aussi envie de participer à ce débat et de donner leurs idées. Et puis, il y a des exemples aussi dans le débat public d'aujourd'hui. On a parlé de la monarchie il y a un instant, mais il y a aussi le tirage au sort. C'est une question qu'on pourra poser tout à l'heure avec vous. Yvan nous appelle du Rhône. Bonjour Yvan.
Oui, bonjour. Oui, mais je voudrais demander à votre invité s'il est favorable au référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui est le seul outil démocratique et efficace qui permettrait aux électeurs de pouvoir reprendre la parole entre deux scrutins de même niveau pour décider de ce qui les regarde et, par exemple, soumettre à référendum les promesses électorales qui tarderaient à être tenues.
Au niveau national, donc, Yvan.
Au niveau national. Mm. Et je voudrais signaler en 10 secondes que en Islande, la constitution en question a été adoptée par référendum, mais qu'elle n'est pas en vigueur, qu'elle a été refusée par les députés. Je voudrais que l'auteur le dise.
Romain Slitine.
Oui. Alors, ça n'a servi à rien.
Merci beaucoup pour cette précision.
Romain Slitine, ça a servi à rien.
Vous avez tout à fait raison. La constitution est pour l'instant sur la pile des députés du Parlement islandais. Elle est bloquée justement par la classe politique qui n'a pas accepté justement que le peuple directement puisse faire en quelques mois ce que pendant plusieurs années ils n'ont pas réussi à faire. Mais il y a un signe d'espoir puisque dans quelques semaines il y a de nouvelles élections et actuellement c'est le Parti Pirate qui va peut-être remporter ces élections. Et le Parti Pirate a mis comme premier, comme première décision d'adopter cette constitution nouvelle.
Cette constitution ? Comment ? Elle est si bonne, cette constitution ?
Écoutez, elle est.
C'est peut-être la question fondamentale.
Alors, elle est.
Elle n'a pas fait ses preuves encore. Elle doit être mise en œuvre.
En tout cas, elle est très avancée sur un certain nombre d'éléments, en particulier sur les dimensions environnementales et sociales.
Le référendum d'initiative citoyenne, Jean Finkelstein, pour trancher au niveau national des questions qui font débat ou des promesses non tenues, comme disait notre auditeur à l'instant. C'est une idée que vous avez soumise aux citoyens, aux sondés.
C'est une idée qu'on a soumise aux citoyens, qui est majoritairement approuvée. Comme vous le savez, c'est une disposition qui a été introduite par Nicolas Sarkozy. Je lui rends pas hommage toujours, donc là, je le fais dans la révision constitutionnelle de 2008, mais avec des conditions d'application qui sont complexes et avec un champ qui est limité. C'est une voie possible. Je pense que c'est pas la seule voie et que pour moi, l'essentiel, c'est moins dans la multiplication des référendums. On va le voir en Italie le 4 décembre prochain. Le référendum, c'est toujours compliqué parce qu'on répond souvent davantage à la personne qui pose la question qu'à la question elle-même. C'est davantage dans l'association des citoyens à la décision publique elle-même.
Ça mettrait le pays en campagne permanente, non ?
Mais c'est pour ça que ça ne peut pas être on ne peut pas exclure le recours au référendum. Il est prévu à la fois par initiative politique ou par initiative citoyenne, mais ça ne peut pas être le mode de gouvernement quotidien. C'est pour ça que pour moi, l'essentiel, c'est l'association des citoyens aux décisions.
Patrice, depuis la Meuse au Standard d'Inter. Bonjour Patrice.
Oui, bonsoir. Bonjour plutôt.
Ça c'est l'effet Big BD, oui. Nous vous écoutons.
Oui, le choix des élus est très longtemps perçu comme étant l'expression ultime de la démocratie. Cependant, l'abstention récurrente montre une défiance des citoyens en leurs représentants. N'est-ce pas la conséquence de la trop forte puissance des lobbies qui pervertissent le choix de nos élus ? Puisque vous le dites, j'habite en Meuse depuis une vingtaine d'années, où nous avons un exemple flagrant avec l'ANDRA qui gère les déchets nucléaires, qui promet l'enfouissement des déchets, mais qui exerce un lobbying scandaleux. Vous avez des élus meusiens ou marnais qui sont prêts à écouter la sérénade des commerciaux et l'argent de l'ANDRA, mais qui donnent un temps dérisoire de paroles, voire nul, aux opposants de ce projet monstrueux. Donc par la puissance de l'argent, la démocratie, à mon avis, est complètement pervertie et dévoyée.
Merci Patrice pour ce témoignage et ce point de vue. Romain Slitine ?
Alors évidemment, la question des lobbies est un point central pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Et là encore, on a pu regarder dans le coup d'État citoyen un certain nombre d'initiatives où les citoyens peuvent se prendre en main et contrôler les lobbies. Alors il y a plusieurs moyens. Il y a par exemple en France un collectif qui s'appelle Regard Citoyen qui fait un travail pour mettre à jour l'ensemble des interactions entre les lobbies et les parlementaires en particulier. Et puis surtout pour lutter contre les lobbies, on a deux possibilités. On a la possibilité d'essayer de les contrôler par la loi, ce qui est nécessaire mais pas suffisant. Et on a une autre possibilité, et c'est un élément essentiel de l'avenir de notre démocratie de notre point de vue, c'est la question de la transparence. Il faut pouvoir ouvrir les données, il faut pouvoir ouvrir la manière dont sont prises les décisions. Et aujourd'hui, évidemment, avec Internet, c'est beaucoup plus faisable qu'avant, c'est possible. Et des collectifs, comme je le disais, comme Regard Citoyen, ont mis en place des plateformes comme nosdéputés.fr, nosénateurs.fr pour à la fois montrer l'activité des parlementaires et la valoriser quand c'est nécessaire, et aussi pointer les possibles dérives dans le cadre de l'activité parlementaire ou autre.
Gilles Finkelstein, il y a l'idée que le pouvoir se trouve ailleurs que dans la représentation électorale, ou que nos élus sont mus parfois par des intérêts cachés. Enfin, c'est ça qui est exprimé d'une certaine façon, Gilles.
Oui, cette question de la transparence, je rendais hommage à Nicolas Sarkozy, en rendant hommage aussi quand même à ce qui a été fait depuis 2012, parce que la transparence, c'est vrai pour les lobbies, c'est vrai pour la transparence financière des élus, elle a progressé aussi au cours de cette législature. De même, on parlait tout à l'heure avec Thomas Legrand du cumul des mandats, la loi sur le non-cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale, elle rentre en application pour la première fois à l'occasion des prochaines élections législatives de 2017. De même, la parité, dont on n'a pas parlé pour l'instant, a progressé à la fois au niveau gouvernemental et puis au niveau départemental et au niveau communal depuis le début de la législature. Donc, cette défiance vis-à-vis de la représentation, elle existe. Tout à l'heure, à 7h15, Hervé Pochon citait Jaurès.
Oui.
Donc, je réfléchissais à une citation de Jaurès qui disait, je crois, en 1884. Il faudra vérifier, la démocratie n'est pas fatiguée de mouvement, elle est fatiguée d'immobilisme. Eh bien, il faut reprendre le mouvement.
Jean-Paul nous appelle de Lyon. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour mesdames et messieurs. Dans la foulée de ce qui a été dit sur l'Islande tout à l'heure, je voudrais rappeler qu'en France, le peuple est parfois représenté directement par tirage au sort, en particulier dans les cours d'assises. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de supprimer le Sénat et de le remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort ? Serait l'avantage d'équilibrer notre démocratie représentative à bout de souffle par un peu de démocratie directe. Et cela couperait l'herbe sous le pied des discours populistes.
Merci Jean-Paul. Tirage au sort promu par Arnaud Montebourg en ce moment dans cette pré-campagne présidentielle. Est-ce que ça existe, Romain Slidine? Est-ce que vous avez des exemples dans le monde de systèmes politiques qui ne reposent pas sur les tirages au sort, mais où il y a un élément une part d'élus tirés au sort?
Alors, ça existe, on l'a vu en Islande, on le voit en Irlande aussi, où la Constitution en 2013 a été réformée par 66 citoyens tirés au sort et 33 professionnels de la politique. Ouais. Donc ça marche. Et là encore, la Constitution a été adoptée, réformée sur en particulier la question du mariage homosexuel. Donc ça marche. Cette question du tirage au sort, de notre point de vue, est effectivement essentielle. On l'a perdu de vue, c'était dans la Grèce antique un des éléments fondamentaux, et c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui, de notre point de vue, à tort, puisque le tirage au sort a une grande vertu, c'est qu'il permet de représenter la diversité de la population. Et l'autre chose, on ne peut pas juste parler de tirage au sort, il faut adosser autre chose, un autre élément qui est la question de la délibération. Pour pouvoir véritablement faire des bonnes lois par le tirage au sort, il faut pouvoir représenter l'ensemble de la population, mais aussi mettre les citoyens dans des bonnes conditions pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir du temps, ça veut dire avoir des moyens, ça veut dire avoir une analyse d'expertise, et ça veut dire pouvoir délibérer ensemble pour pouvoir arriver à un consensus. Et dans ces conditions, le tirage au sort, pour nous, peut véritablement compléter notre démocratie représentative de manière très intéressante.
Gilles Finkelstein, Fondation Jean Jaurès, c'est une idée qui a été testée dans votre étude?
Oui, c'est une idée qui a été testée, qui là aussi recueille un sentiment assez favorable. Oui. Peut-être moins dans l'idée, comme le disait Jean-Paul, d'un substitut à une assemblée, mais d'un complément, et pas nécessairement de manière permanente, mais de manière temporaire sur un projet particulier, comme cela vient d'être évoqué. Mais il ne faut pas que le tirage au sort soit un prétexte à ne pas travailler sur l'amélioration de la représentation elle-même.
Bien sûr.
Donc il ne faut pas se dire la représentation n'est pas représentative d'une certaine manière, et donc on fait le tirage au sort pour... voilà. Et donc il y a des choses à faire. On a parlé de la parité tout à l'heure. C'est vrai sur la représentation, la diversité des idées politiques. C'est vrai aussi des origines socio-professionnelles.
Mais Thomas Legrand, comment redonner confiance à la délégation de pouvoir? Parce que la représentation, c'est la délégation. C'est-à-dire que on demande à certaines personnes de nous représenter et de faire certains choix en notre nom, sur la base d'idéologie notamment. Et ça, on ne peut pas s'en passer non plus. Et c'est ça le cœur de la défiance.
Oui. C'est le cœur de la défiance, c'est le cœur de la difficulté. Si j'avais la réponse à cette question... non, mais c'est évidemment... La démocratie, c'est d'abord, fondamentalement, au quotidien, la représentation, les élus. Et donc, il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées sur le comportement des élus, sur les pratiques politiques.
On peut retrouver la confiance avec simplement plus de transparence. Par exemple, la traçabilité pour chaque loi de tous les lobbies qui sont intervenus. Ça, c'est des pistes. Ou sur le patrimoine des élus. Est-ce que ça suffit ou il faut retrouver un débat politique plus idéologique, par exemple?
Je pense que l'essentiel... Enfin, il y a les deux dimensions. Il y a les pratiques, mais il y a les politiques, et c'est sans doute le plus important.
Les réseaux sociaux, Hélène Roussel, est-ce qu'il y a des idées, des propositions, des envies?
Pas mal de choses. Ce qui revient beaucoup, ce sont des questions. Comment parler de démocratie quand on est en oligarchie? Ou encore, on parle beaucoup d'Islande. Donc, l'Islande, on peut le rappeler, 400 000 habitants. Le nombre, se demande Hugo Blondel, n'a-t-il pas une limite à l'initiative citoyenne?
Oui, bonne question. Romain Slidine.
Alors, le nombre, ça s'est fait également dans des pays beaucoup plus importants. On a, encore une fois, aujourd'hui, des moyens technologiques pour pouvoir s'adresser à un beaucoup plus grand nombre. Et je pense que c'est véritablement une question culturelle, cette transition démocratique, et avant tout dans nos têtes. Et justement, on doit, de notre point de vue, expérimenter énormément de solutions pour revigorer notre démocratie. Il y a des exemples, y compris pour renforcer cette question de la représentation. De notre point de vue, il ne faut pas opposer représentation et toutes ces nouvelles formes de démocratie directe et participative.
La question du nombre est quand même une vraie question.
Oui.
C'est quand même plus facile, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui se font au niveau local, au niveau communal, parce que c'est quand même plus facile à organiser. On a créé, il y a maintenant 3 ans, un observatoire de l'innovation locale à la Fondation qui avait pour objet de repérer des pratiques et des politiques publiques innovantes. Et l'expérimentation est un point important. On a lancé cette semaine une expérimentation sur un sujet dont vous parlez souvent, qui est celui du revenu universel, du revenu de base, avec le conseil départemental de Gironde. Cette idée de pouvoir commencer par expérimenter, de pouvoir après évaluer, c'est une idée qui est peu pratiquée en France et là aussi qui offre une voie intéressante pour la suite.
Un mot encore, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, la monarchie, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut tordre le cou à cette idée où, l'expression n'est pas bien choisie, mais il y a un certain nombre d'intervenants, d'intellectuels régulièrement qui remettent cette idée en tête pour assurer l'unité de la nation. Il faudrait retrouver un roi, quelqu'un qui puisse incarner l'unité du pays, Gilles-Philippe Koussaïn.
Je pense que Louis XX peut ne pas se précipiter tout de suite.
Bon,
ça reste une opinion marginale. Il faut quand même regarder que dans les autres pays européens, c'est le régime politique, les monarchies parlementaires qui est très souvent pratiqué. Il y a une question et qui renvoie à notre enquête elle-même. Je disais tout à l'heure qu'une des questions était de savoir de clarifier l'équilibre entre le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que l'idée qu'on dissocie davantage un chef de l'État qui représente la nation et celui qui a réellement le pouvoir exécutif, ça peut être une piste que l'on peut tirer, peut-être de manière excessive, mais que l'on peut tirer de manière intéressante de cette question sur la monarchie.
Gilles Finkelstein, Romain Slitine, vous restez avec nous. On va accueillir dans 30 secondes Augustin Trapenard et retrouver Frédéric Becbédé.